Je suis Zoritza, votre coach en image de soi. Retrouvez-moi tout de suite pour notre capsule de croissance personnelle, Éclore. Soyez votre plus belle réussite. Bonjour auditeurs de Radio Gémozo et bienvenue dans cette nouvelle capsule Éclore, soyez votre plus belle réussite, présentée par Zoritza. Bonjour.
Bonjour Léa.
Ça va ?
Oui, très bien.
Super. Alors tu es coach en image de soi et tu vas aborder à travers ces capsules, on le sait maintenant, hein, c'est déjà la quatrième, mais je le dis quand même, différents thèmes liés à la connaissance de soi. Aujourd'hui, pour cette quatrième justement, tu nous expliques l'importance d'être acteur de sa vie. En quoi ça consiste ?
Être acteur de sa vie, alors ça c'est, voilà, c'est ma définition, hein, c'est une proposition que je fais. Effectivement, être acteur de sa vie, c'est avoir du sens dans sa vie, se sentir évoluer. Être acteur de sa vie, c'est décider et aussi avoir conscience de ce sur quoi je base mes prises de décision. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites vos choix en toute conscience ? Et est-ce vraiment vos choix ou le résultat de celui des autres, hein ? Peut-être que des fois on fait des choix pour plaire, pour se conformer, pour voilà, exister au-dessus des autres. Hein. Et donc, ici, ce que je voulais effectivement aborder, c'est prendre conscience de ce sur quoi repose notre prise de décision et comment être véritablement acteur de sa vie en 6 étapes.
Ah.
Soyons audacieux.
Alors tout d'abord, sur quoi se base-t-on pour faire ses choix et quel est l'impact justement de ces choix ?
Oui, alors la plupart du temps, nous faisons les choix qui nous semblent les meilleurs pour soi, selon nos propres critères et selon le contexte, bien évidemment, et les enjeux du moment. Et j'ajouterais que, effectivement, selon le niveau de conscience aussi que l'on a à ce moment-là, c'est-à-dire que je comprends mes schémas de fonctionnement, et bien évidemment, je n'ai pas la même conscience quand j'ai 15, 20, 30, 40 ou 50 ans, hein, parce que j'ai expérimenter des choses, j'ai compris des choses et à chaque fois je vais finalement positionner mes choix par rapport à certains critères. Et ce que j'aime aussi ajouter, c'est le point de vue neuroscientifique où le cerveau finalement va faire des choix qui, selon lui, sont garants de notre survie. Hein, parce que le cerveau, il est paramétré pour notre survie, il n'est pas paramétré pour est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas... Non, c'est pas son truc. C'est est-ce que ma sécurité, est-ce que ma survie est assurée dans ce cadre ? Et c'est pour ça que des fois, on a aussi ce biais du statu quo où le cerveau va préférer rester dans un environnement inconfortable, douloureux parfois, mais qu'il connaît, plutôt que de sortir vers un environnement qui pourrait être meilleur, mais qui fait peur. Parce que je ne connais pas. Voilà, c'est cette peur de l'inconnu qui va l'empêcher de bouger. Donc ce biais du statu quo qui nous bloque. Donc en même temps, j'irai le premier critère pour faire nos choix, ce sont les croyances. Hein, finalement, quelles sont les croyances que j'ai dans cette situation ? Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce qu'il y a une réussite ? Est-ce que je me sens capable d'y arriver, d'avancer, etc. Deuxième critère, ça serait notre identité. Savoir où finalement, quelle confiance est-ce que j'ai en moi, quelle image est-ce que j'ai de moi et finalement dans quel cadre je vais définir cette zone du possible hein, où je me vois évoluer. Et le troisième critère, c'est le biais de conformité, parce que parfois l'appartenance au groupe, l'appartenance, je dirais aussi à un environnement socioculturel, familial bien évidemment, je vais faire des choix qui vont peut-être me limiter effectivement, mais qui me semblent peut-être plus adaptés pour continuer à faire partie du groupe, parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de blesser aussi. Hein, et donc, je vais plutôt faire un choix avec l'objectif de éviter de, plutôt que aller vers.
Alors, tu m'as perdu du coup. Quelles sont les clés pour parvenir à faire ces choix ?
Les clés, je dirais, c'est déjà... Toujours, la première clé, c'est cette prise de conscience que ça dépend de moi, ça dépend de la manière dont je vois les choses, effectivement. Et ce qui peut être magique, c'est comprendre qu'effectivement, ce qui me fait peur, c'est le manque de connaissances. Hein, ce qui me fait peur, c'est parce que je ne connais pas ce qui va se passer. Et je vais, comme on disait, utiliser ce fonctionnement de éviter de. je vais éviter de souffrir, je vais éviter d'être rejetée, donc je vais faire certains choix. Et ce qui peut être magique, ça peut être de changer le regard hein, que j'ai sur ma vie. Et comme disait Einstein, il n'y a que deux façons de voir sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Donc par rapport à ça, je vais poser un filtre différent sur ce qui m'entoure et sur ce que je vais oser faire ou pas. Est-ce qu'il y aura du sens ou pas ?
Comment on identifie ses besoins ?
Alors, identifier les besoins, ben là, c'est ce que je vous propose, c'est 5 plans de besoins sur lesquels, finalement, on va pouvoir positionner après des ressentis. Et en fonction de ces ressentis, finalement, vont nous indiquer s'ils sont agréables, que ces besoins sont nourris, et s'ils sont désagréables, qu'ils ne le sont pas. Et après, voir comment on peut identifier dans le comportement, comment je prends conscience que j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Et le premier besoin, c'est le besoin physique. Là, on est sur le besoin du corps physique, donc de boire, de manger, de dormir, de se reproduire. C'est vraiment c'est la physiologie. Hein, est-ce que je me sens en santé, quelque part ? Et il y a aussi une dimension matérielle. Voilà, est-ce que voilà, la maison, le moyen pour me déplacer, est-ce que je me sens en sécurité ? Et le plan financier, économique. Hein, donc ce premier besoin physique regroupe tout ça. Le deuxième besoin, c'est le besoin de lien, le besoin relationnel. Là, on est plus sur la dimension émotionnelle. C'est finalement le fait d'être reconnu, de sentir considéré, d'être valorisé. Parfois, on attend juste un bonjour. Voilà, on le vit mal quand on a une personne qui nous croise, qu'on connaît, ou même un collègue qui ne nous dit pas bonjour. Hein. Rien que ça impacte. Hein. Donc, il y a vraiment ce besoin de lien. Et c'est probablement le besoin le plus puissant en termes de développement, puisque des gens vont parfois accepter un salaire. Mais là où il y a une considération plus importante, ils se sentent plus considérés. Et donc, ça va être un critère de choix qui va être plus important, plus impactant. Même si j'ai un salaire un peu moindre, bah, je vais mieux le vivre parce que ce besoin de lien, il est très, très fort. Et effectivement, même si on revient à notre manière de grandir, le petit enfant grandit grâce à ça. C'est, on grandit, bah, c'est ce besoin de se sentir aimé. Et c'est ce qui va m'aider à grandir. Hein. Si je me sens laissé dans un coin comme ça en train de choir, j'ai pas envie voilà, d'apprendre ou de grandir. Le troisième besoin, c'est le besoin intellectuel. Là, on est plus sur la dimension cognitive. Hein. C'est le besoin de comprendre, d'apprendre, d'avoir des explications, de partager, de retransmettre hein, l'information, d'avoir le sentiment d'évoluer. C'est comment est-ce que je nourris mon cerveau au quotidien ? Qu'est-ce que j'apprends ? Voilà. Et c'est là où des fois se mettre dans une situation où je suis un peu coupé de la communication du collectif, bah, je vais mal le vivre aussi. Hein. Donc, c'est comprendre que c'est un besoin important. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'ambition. De mission, de donner du sens finalement à son existence, c'est la raison d'être, hein, c'est pourquoi je fais ce métier, pourquoi je me suis engagée dans cette relation, quelle est ma place finalement face à l'environnement, c'est mon identité, ma raison d'être, et finalement quand vous connectez le sens, votre sentiment de mission augmente finalement, et à l'inverse, quand je n'ai plus de sens, bah, je tombe dans la démission. Voilà. Et parfois, alors, on ne parle pas que de démission professionnelle, mais de démission dans l'ensemble de mes autres sphères de vie. Et le cinquième besoin, c'est un besoin plus onirique. Hein. Et là, c'est un levier important aussi dans le développement, parce qu'il va au-delà de la mission. Il y a la vision, donc ma mission. Hein. Mais là, c'est ce à quoi je contribue de beaucoup plus grand que moi. Et c'est le besoin parfois qui est un peu titillé, qui est un petit peu activé et qui fait que les gens vont s'engager, j'irai, dans des missions humanitaires ou dans des associations caritatives. Donc, je suis bénévole. En fait, là, c'est répondre à quelque chose, contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et je n'ai pas de bénéfice personnel direct. Hein. Donc là, c'est vraiment un besoin beaucoup plus grand que moi.
Alors, comment est-ce qu'on voit que nos besoins ne sont pas satisfaits et comment on remédie à ça pour redevenir acteur de sa vie ?
Très bonne question. Alors, effectivement, c'est se connecter à ses ressentis, c'est essentiel, c'est fondamental. Et des ressentis désagréables vont indiquer une frustration, une insatisfaction et donc qu'un besoin n'est pas nourri. Et un ressenti agréable, plaisant, satisfaisant ou simplement le fait de se sentir serein, paisible, ça indique que mes besoins sont nourris et que je suis sur la bonne voie, quelque part. Donc c'est vraiment la première étape, c'est vraiment considérer ces émotions désagréables, hein, qui sont, voilà, si on reste sur les émotions de base, hein, la colère, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût. Finalement, ça va être de les utiliser comme des indicateurs, comme des voyants, comme sur le tableau de bord qui s'allument. Ils disent attention, il y a quelque chose qui, voilà, qui est à régler. Il y a une insatisfaction qui va attendre une action correctrice pour aller mieux. Le deuxième, donc voilà, c'est les émotions désagréables. C'est aussi des comportements destructeurs. Hein, quand effectivement, bah, je vais avoir une certaine agressivité, une certaine critique, je suis dans la plainte, je suis dans la satisfaction permanente avec moi, avec mon environnement. Je vais avoir aussi des comportements d'autodestruction, des addictions aussi. Hein, c'est prendre conscience que les addictions, c'est l'intelligence mise au service de la destruction. Donc c'est prendre conscience que tous les comportements ont leur intelligence sous-jacente. Il n'y a pas de hasard. Si je me comporte, même voilà, quelqu'un qui est agressif, qui ne fait rien, qui fait trop, il vit quelque chose qui est inconfortable pour lui. Et cette difficulté que l'on a en fait d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur, c'est tellement, tellement fort, tellement puissant, j'ai même pas les mots, je ne sais pas trouver les mots pour le dire à l'extérieur. Donc je me comporte comme ça, mais bien évidemment, l'environnement, lui, ce qu'il va voir, il va prendre le comportement, et pour peu qu'il le prenne personnellement, à aucun moment donné, il y aura cette connexion sur « mais de quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que tu es en train de vivre pour que tu te sentes aussi mal, pour que tu agisses aussi agressivement, hein, finalement ?» Parce que l'agressivité qui se passe à l'extérieur est à la hauteur de la tempête ou de l'ouragan qui se passe à l'intérieur pour la personne. Même un petit enfant, voilà, qui est là, qui va faire, comme on dit, une crise, il est en train de hurler, mais juste il est en train d'appeler « au secours, j'existe, regardez-moi, j'ai besoin de quelque chose ». Voilà. Et on va lui dire quoi ? « Tais-toi, va dans ta chambre ». Bon, voilà, c'est comprendre que la communication, la qualité de notre communication, elle commence très très tôt. C'est comment on m'a considéré qui va faire que ben moi, je vais apprendre aussi à communiquer de cette manière-là quand je serai adulte. Et finalement, cette posture de victimisation dans laquelle je vais m'enfermer parce que je vais rejeter la responsabilité de nourrir mes besoins vers l'extérieur. Hein, c'est l'extérieur qui va être responsable de s'occuper de ma santé parce que je n'ai pas su m'en occuper avant. Je n'ai pas considéré ma santé. Donc, je suis dans cette dépendance face à des thérapies, des soignants, des médicaments. Je n'ai pas su prendre soin de mon couple, donc je vais faire appel à un médiateur, à un avocat, à des personnes qui vont venir régler la communication que je n'ai pas su entretenir. Donc c'est de la responsabilité vraiment de chacun de nourrir ses propres besoins. Et quand je nourris mes propres besoins, bah c'est là où je remonte. Hein, parce que dans les comportements de victimisation, hein, c'est là où on descend dans cette agitation et dans cette incapacité finalement à communiquer. Hein, je vais m'enfermer et pour l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Donc, voir vraiment ces comportements agressifs, agités, comme des appels au secours, tout simplement.
Alors, comment on fait pour remédier à ça ?
Alors, pour en sortir, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le niveau de frustration et d'insatisfaction dans lequel on est, on peut en sortir en une seule étape. La première étape, effectivement, c'est prendre conscience, toujours. Voilà. Il n'y a aucun changement. Aucun changement ne peut se faire s'il n'y a pas une prise de conscience. Donc, prendre conscience que j'ai un besoin qui est à nourrir. Mais prendre conscience déjà de ce que je ressens. Comment est-ce que je me sens ? Combien de fois par jour vous posez la question ? Est-ce que tu te demandes le matin, voilà, tiens, comment je me sens ? À midi, tiens, comment je me sens ? Et la réponse, c'est pas bien ou pas bien. Non, ça c'est insuffisant comme réponse.
Argumenter.
Mais encore. C'est vraiment de se dire, tiens, là j'ai une petite tension au niveau des cervicales. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, peut-être que j'étais un petit peu trop tendue. Est-ce que je me suis, dans ma posture, est-ce que dans ma manière de me tenir, comment je me sens ? Bah, tiens, j'ai une petite boule là au niveau du plexus. Est-ce que, voilà, vraiment être à l'écoute de soi. Donc première étape, c'est prendre conscience de comment je me sens et de se répondre avec authenticité de soi à soi. Hein, c'est pas répondre aux autres, mais de soi à soi. Et finalement, la deuxième étape, ça va être d'identifier, voilà, quel est mon besoin. Première étape, je prends conscience de comment je me sens. Deuxième étape, quel est mon besoin ? De quoi j'ai besoin à ce moment-là ? Bah tiens, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de respirer. Donc tu vois, là, on est sur un besoin physique. J'ai besoin de comprendre les choses. Voilà, je vis un truc pas bien parce que je ne comprends pas pourquoi. Donc tu vois, troisième besoin, voilà, c'était le besoin intellectuel. J'ai besoin de comprendre. Voilà, j'ai besoin d'avoir du sens. Quatrième besoin. Troisième étape pour remonter, effectivement, c'est de prendre la décision. Et là, cette étape, elle est vraiment cruciale parce que je décide, je programme mon cerveau vers cet objectif-là. Je prends la décision, l'engagement avec moi de nourrir mon besoin. Ok, j'ai besoin de bouger. Je décide de me lever et je bouge. Voilà, par exemple, ça c'est tout simple. Mais après, on peut partir sur des choses beaucoup plus complexes. Et la quatrième étape, c'est regarder un peu les options possibles. Voilà, quelles sont les options possibles dans ce cas de figure? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et quelque part, j'essaie de lister tout le champ des possibles. Zéro limite. Et après, cinquième étape, c'est de mettre la limite. C'est-à-dire que je choisis par quoi je commence. L'action la plus simple, la plus efficace, la plus facile à mettre en œuvre dans ce cas-là, ça sera laquelle? Voilà, cinquième étape. Et sixième étape, je mets en pratique, je passe à l'action. J'ai mon feedback tout de suite, je vois est-ce que ça marche pas, j'ajuste, je réajuste et je continue et j'avance. Et ces six étapes, finalement, vont permettre de développer la confiance en soi, de développer aussi cette capacité à se célébrer, à se dire mais waouh, je suis fier de moi, j'ai réussi et je suis acteur de ma vie. Je suis dans cette dynamique de croissance et d'apprentissage pour moi. Et c'est vraiment grâce à cette dynamique de progrès que vous développez un leadership et finalement cette harmonisation qu'on va partager au monde, aux personnes qui nous entourent. Parce que si moi je suis bien, c'est ce que je vais rayonner aux autres.
C'est vrai. À mon échelle, je me suis fixé l'objectif d'arriver à l'heure au travail.
Et tu t'en donnes les moyens.
Voilà. On peut encore une fois lister ces objectifs là, faire des petits sous-chapitres en mettant des petites étapes justement dans cet objectif, des étapes que l'on peut facilement, j'ai perdu mon mot, mais atteindre. Attends, en fait, ouais. Voilà, et puis répondre, hop, on fait une petite croix, là j'ai réussi, ça fait tellement de bien.
C'est une satisfaction, voilà, c'est oser se célébrer, hein. C'est quelque chose qu'on n'ose pas faire non plus, en se disant, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est bon, c'est normal. Non, c'est aussi de se féliciter, se donner un peu de douceur.
C'est ça. Oui. Si on veut en savoir plus, on peut te retrouver, Zoritza, sur les réseaux, sur ton site internet, pour retrouver peut-être quelques points sur ce sujet du jour, mais aussi sur plein d'autres.
Tout à fait.
Ça se passe où?
Ça se passe. Sur mon site, donc www.a-du6to-z.fr. Sur Facebook, donc ma page pro A2Z Conseil Coaching et Formation. Et sur LinkedIn, Zoritza Vucic. À votre écoute.
Et ben voilà, merci beaucoup Zoritza et on se retrouve bientôt.
À très bientôt. Merci.